Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime avec Perrine Suquet, Margot Agnès, Sébastien Rocheron aujourd'hui aux manettes techniques de notre émission. Et à la une profession à la fois très très connue et très très mal connue. Vous allez vous en apercevoir si vous restez avec nous toute l'émission. C'est la profession de profileur, dit-on au français, profiler, bon, à l'américaine. Et évidemment, nous ne parlons pas des profileurs de télévision, mais de ceux et de celles, car il y a des femmes qui exercent ce métier à part entière pour une grande partie de la planète, à part la France. Mais en France, on appelle ça autrement, mais on en fait aussi. Pourquoi je vous parle de ça? À cause d'un livre passionnant qui paraît d'ailleurs aujourd'hui chez Hors Collection. Il est signé de Véronique Chalmet. Il s'intitule « Dans la tête des tueurs, portrait de profileur ». Et ça lui vaut donc une invitation à l'heure du crime immédiatement. Bonjour Véronique Chalmet.
Bonjour Jacques.
Merci beaucoup, j'ai trouvé très original la façon dont vous abordez ce thème du profilage. Avant d'entrer dans le cadre de votre enquête, dans tout ce que vous dites, juste un mot sur le fait que profileur, ça n'existe pas en France. Non. Alors il y a des psychocriminologues,
oui,
est-ce
voilà, que
c'est la même chose?
Non, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en fait, ils dressent aussi des profils de victimes. Ils sont experts auprès des tribunaux la plupart du temps. Ils sont consultants auprès de la gendarmerie, de la police. Mais ils n'exercent pas à temps plein le métier de profiler comme aux États-Unis.
Et comme font ceux que vous avez pu rencontrer, dont vous racontez l'histoire. Alors, le profilage est né, et ça, j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus tout de suite, après la Deuxième Guerre mondiale, oui, mais pas longtemps après, à travers l'histoire d'un homme, d'un inconnu que la police a traqué pendant des années et qui faisait sauter des bombes un peu partout dans la région de New York, enfin oui, à des endroits aussi très spécifiques, à tel point que la presse l'avait surnommé Mad Bomber, c'est-à-dire le fou qui pose des bombes, quoi.
Voilà, c'est ça, il en posait dans les cinémas, dans les théâtres, dans les bibliothèques. Bon, heureusement, il a fait très peu de victimes, surtout des blessés, mais il terrorisait la ville de New York, oui, pendant...
Et vers la fin, ça s'est accéléré et il y avait de plus en plus de victimes. Hein.
Voilà,
la police était vraiment sur les dents. Quoi.
Et puis la police n'avait aucun indice, ne savait pas comment le retrouver. Donc du coup, un policier a eu l'idée de faire appel à un psychologue de ses amis en lui disant « Toi, t'as pas une idée du personnage qu'on est susceptible de traquer ?» Et là, en l'espace de quelques heures, le psychologue a repris donc tout le dossier, a étudié les photos et il a donné une description hyper précise du suspect.
Alors, on peut donner le nom de cet homme, parce que c'est vraiment l'ancêtre des profileurs. Grâce à lui, c'est la première fois qu'on a arrêté un assassin,
oui,
grâce au portrait psychologique et physique dressé par ce psychologue psychiatre qui s'appelait
James Brussel. Oui.
James Brussel, bon.
Et qui a été jusqu'à donner la façon dont, enfin, la profession probable du criminel, sa façon de s'habiller, sa façon de se coiffer, son mode de vie. Enfin, il a décrit ça d'une manière tellement précise que, à force de recoupement, on l'a retrouvé en l'espace de quelques jours.
Alors, il faut quand même peut-être donner une fourchette de date. Ouais. Ça se passe à quelle époque, l'histoire de Mad Bomber?
Ça se passe en 56.
En 1956.
Oui.
Alors, quand vous dites un policier va voir James Brussel, lui dit alors où on devrait chercher. Et l'autre, j'aimerais bien qu'on redécoupe ce qu'il dit, parce que c'est extraordinaire. Il dit, vous cherchez quelqu'un qui est originaire de l'Europe de l'Est.
Oui.
Pourquoi?
Parce que en fait, le fait de poser des explosifs pour lui est typique de, à cette époque-là en tout cas, des méthodes d'attentat qui peuvent exister en Europe de l'Est.
Oui.
Alors ça, bon, d'autres profilers par la suite ne seront pas d'accord avec cette analyse, mais bon, le fait est que ça fait partie de son profil.
Voilà. Après, il va dire, vous cherchez plutôt un colosse, enfin, en tout cas, quelqu'un qui est
bien charpenté.
Bien charpenté. La raison ?
La raison, c'est que c'est quelqu'un qui a l'habitude de manipuler des choses assez lourdes pour faire ses explosifs, parce que bon, à l'époque, voilà. C'est quelqu'un aussi qui a été...
qui est vraisemblablement schizophrène. Hein. Je pense qu'il a détecté une tendance à la schizophrénie.
Et qui veut se venger de quelque chose, surtout. Ouais. Et puis, encore une fois, grâce au recoupement des lieux et de sa méthode, on arrive à trouver que c'est quelqu'un qui s'est fait renvoyer de chez Con Edison, qui est le pourvoyeur d'électricité aux États-Unis. Ouais. Et on arrive aussi à comprendre que c'est un solitaire, qu'il est célibataire, qu'il vit chez sa mère, qu'il a tout un tas de manies et puis d'obsessions qui font qu'il est mal d'humeur.
Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que James Russell dit, quand vous l'arrêterez, vous verrez, il aura un costume qui entièrement boutonné sur le devant, très strict. Et quand les policiers l'arrêtent, l'homme en question, qui est effectivement d'Europe de l'Est, qui a effectivement travaillé chez Con Edison, qui effectivement est plutôt bien charpenté, qui vraisemblablement a aussi l'âge auquel se développe en général la schizophrénie, ce qu'avait dit Brossel. Il est habillé normalement, il a un t-shirt, tout ça. Les flics se disent, tiens, il s'est trompé au moins une fois. Et là, le type dit, non, attendez, je vous accompagne, il n'y a pas de problème, c'est moi, j'avoue, mais je voudrais aller m'habiller. Et quand il revient de sa chambre, où on lui permet d'aller s'habiller, il a un costume.
Son costume
croisé. Donc ça, c'est vraiment... Alors, j'ai découvert aussi, on va parler des profileurs de maintenant dans un instant, mais j'ai découvert dans votre livre que l'un des personnages qui avait fait l'objet d'un profilage, déjà dans les années 30, c'était Adolf Hitler.
Oui, parce qu'en fait, les autorités américaines avaient demandé à établir une espèce de portrait psychologique qui puisse les aider à comprendre Hitler. Oui. Et puis le psy qui a dressé son portrait avait déjà prédit qu'Hitler se suiciderait. Ouais. Était susceptible de se suicider.
S'il était pris, s'il était perdant, il se suiciderait.
Bon, on s'est pas servi de son profil, pas vraiment, mais il s'avère que par la suite, on a pu constater qu'il était juste.
Alors, nous allons maintenant faire une première pause. Si vous avez des questions à poser sur ce métier de profileur, sur les techniques qu'ils utilisent, sur les succès qu'ils remportent ou les échecs, eh bien, c'est le moment ou jamais. Vous pouvez nous contacter au 3210 pour les coups de téléphone, rtl.fr si vous préférez les courriels. Et dans un instant, donc avec Véronique Chalmé, on va commencer notre galerie de portraits de profileurs à part entière.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Et l'invité de l'heure du crime aujourd'hui s'appelle Véronique Chalmé. Elle est journaliste d'investigation. On peut dire aussi, Véronique Chalmé, que vous intéressez à l'univers criminel. Hein, vous êtes intéressée déjà aux hôpitaux psychiatriques genre Cadillac où on enferme en général des gens qui quelquefois ont commis de véritables horreurs. Et puis vous avez écrit évidemment sur les faits divers d'une manière générale.
Oui, j'ai un long passif.
Alors, vous êtes intéressée là au profileur et vous avez eu bien raison parce que on dit toujours, ah bah, les profileurs, ceux qui cherchent à savoir ce qu'il y a dans la tête des criminels, c'est comme ça qu'ils font. On verra que c'est plus compliqué que ça, parce que grâce à ces portraits que vous dressez, on finit par comprendre comment travaillent ces profileurs. Et en même temps, on s'aperçoit que, à travers les histoires que vous racontez, les personnes qui parfois n'ont rien à voir les unes avec les autres, il y a des points communs. Il y a des points communs dans l'enfance. Il y a des points communs, et ça c'est plus gênant à dire, avec le crime, quoi. Dans leur lien avec le crime, avec le sang. Il se trouve que eux, ils ont converti ça, si j'ose dire, en énergie positive, puisque c'est le combat du bien contre le mal. Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu les deux faces de la même médaille?
Mais ça peut l'être, d'ailleurs, certains l'avouent carrément, et disent que, enfin, cherchent à savoir, à comprendre pourquoi ils ne sont pas devenus eux-mêmes des tueurs, parce que parfois certains sont sur la tangente, ont eu une adolescence un petit peu tumultueuse, étaient sur le point de devenir délinquants, et puis ils ont pris notre route.
Oui.
Et l'un des pionniers du profiling aux États-Unis, Robert Ressler.
Alors, Robert Ressler, comme ça. Bon. Parlons de lui parce que son enfance a été extrêmement marquée par une histoire criminelle épouvantable qui s'est déroulée dans son quartier, en fait.
Oui. Alors, lui, en fait, il avait 9 ans quand a commencé à avoir lieu des meurtres de femmes, des meurtres terribles. Et surtout, en point d'orgue, on a eu le meurtre d'une petite fille. C'était un petit peu le Dahlia noir d'une manière très réaliste. Cette fois, c'est une petite fille qu'on a retrouvée en fait
qui
dans
va
les
égouts. Enlevée chez ses parents.
Enlevée chez elle.
Alors que ses parents regardent la télé dans la pièce d'à côté.
Voilà. Ses parents sont là et sa petite sœur est dans la chambre d'à côté. Ouais. La petite fille en question laissait toujours sa porte ouverte. Elle avait peur du noir. Ils habitaient au premier étage. À un moment donné, le père s'est levé. Il a senti un courant d'air. Il a vu que la porte de sa petite fille était fermée. Donc il s'est précipité parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas. Et effectivement, il y avait une échelle à côté à la fenêtre. Ouais. La petite fille avait disparu. Il y avait un papier griffonné avec une demande de rançon, mais qui n'avait ni queue ni tête parce que finalement on ne donnait aucune information. Enfin, c'était décousu. Ouais. Donc tout de suite, c'était une histoire qui commençait très très mal. Et les policiers ont mis quand même pas mal de temps à retrouver le tueur. Oui. Ils ont commencé par...
On a retrouvé surtout donc le cadavre de l'enfant dans les égouts.
Voilà.
La tête coupée d'un côté, enfin ça a été un chemin d'horreur.
Les membres de l'autre côté,
Et on a fini par identifier le criminel, mais assez tardivement. Pour vous, Ressler, il est marqué par cette affaire.
Bah oui, parce qu'en fait, à l'époque, ça passait dans les journaux, et puis surtout, contrairement à aujourd'hui, c'était très peu censuré, donc on voyait des photos. On voyait des photos des femmes qui avaient été étranglées, tuées. Enfin bon, on voyait les cadavres, quoi. Donc il avait 9 ans, il voyait tout ça. Il était par ailleurs grand amateur de pulp, ces magazines.
Pulp Fiction, ouais.
Voilà, exactement. Et puis son père travaillait dans un journal de Chicago. Il était homme de service en fait. Et donc Ressler avait l'habitude de lire des faits divers. Il s'était passionné pour ça. Mmh. Donc il s'est passionné pour le meurtre de cette petite fille. Et il voulait devenir détective. Son héros, c'était Chandler. Enfin, tous ces gens-là, tous ces auteurs de policiers. Et puis sa vocation est née vraiment comme ça. À 10 ans, il voulait devenir détective.
Parce que après, quand on a arrêté l'auteur de ce crime horrible, on s'est rendu compte qu'il avait une sorte de double personnalité, puisqu'il disait pas j'ai tué, c'est un autre. Bon, il donnait même un nom à l'assassin, mais en fait, on comprenait qu'il parlait de lui. Ouais. Quand ça commence cette série criminelle dont vous avez parlé avec des femmes qui sont assassinées chez elles, on l'avait appelé le tueur au rouge à lèvres, oui. Parce que les enquêteurs avaient découvert un message de l'assassin écrit avec le rouge à lèvres d'une victime sur la vitre, sur le miroir d'une salle de bain. C'était un véritable appel au secours.
Ah oui, parce qu'il demandait à ce qu'on l'arrête. En expliquant que lui ne pouvait pas interrompre
pourquoi vous faites un lien entre ça qui s'est passé dans l'enfance, la petite enfance de Ressler, et ce qui est devenu après, parce que c'est, disons-le tout de suite, ça a été un pont du profilage au FBI.
Oui. Mais avant ça, il est entré dans l'armée, parce qu'il n'était pas spécialement, c'était pas un élève brillant. Il est entré dans l'armée mais toujours il lisait ses pulps, il lisait ses faits divers. Et puis la criminologie l'intéressait, la criminologie avant l'heure, parce qu'à l'époque c'était pas encore franchement à la mode. Et en fait il a développé ça quand il est entré au FBI dans les années 70.
Ouais.
Il a d'abord été négociateur sur les prises d'otages. Donc là il a commencé aussi à être de plus en plus en dialogue avec des psychiatres, avec des criminels, c'est-à-dire pour essayer de faire en sorte que les prises d'otages ne se terminent pas dans un bain de sang, ouais. Ce qui était souvent le cas à l'époque.
Alors il faut dire qu'il y a eu trois rencontres vraiment significatives pour Ressler. Le premier, mais c'est juste pour l'indiquer, le premier tueur qu'il voit en prison, parce que en fait c'est ça, tous ceux qui font ce métier disent, il faut qu'on parle avec les tueurs en série, ouais. Il faut qu'on rentre dans leur psychologie, et pour ça il faut de l'empathie, il faut parler avec eux. Certains d'ailleurs, l'un, je sais plus lequel d'ailleurs, mais vous dites, se transforme en une sorte de caméléon, il rit comme le criminel, il rit aux mêmes plaisanteries, etc. Il parle comme lui. Et Ressler va rencontrer Sheeran, qui est l'assassin de Robert Kennedy. Et c'est là qu'il va commencer à comprendre que c'est important de parler avec des tueurs. Et puis ensuite, il va y avoir deux rencontres dont on va parler dans un instant après une pause. Celle de l'abominable Charles Manson et celle du non moins abominable Jeffrey Dahmer. À tout de suite.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et dans l'heure du crime, aujourd'hui, nous avons mis à la une la profession de profileur à l'occasion de la parution d'un livre qui paraît d'ailleurs aujourd'hui chez Hors Collection, Dans la tête des tueurs, portrait de profileur. C'est signé Véronique Chalmet, donc journaliste d'investigation, familière de cet univers criminel. On a pas mal d'auditeurs qui nous appellent depuis le début, Véronique Chalmet, pour dire, dans la dernière fiche sous mes yeux là, c'est un correspondant qui dit, mais 36 Quai des Orfèvres, les profileurs sont considérés comme des escrocs. Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un du Quai des Orfèvres ou de la crime qui nous écoute, peut toujours passer un coup de fil pour nous dire ce qu'il en pense. Il y a des escrocs, hein. Il y en a partout.
Il y en a beaucoup, il y en a surtout en France, effectivement, parce que en France, on a peu de tueurs en série, mais on a quand même un certain nombre de gens qui s'auto-proclament profiler, ouais. Alors qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de cursus. On peut être psychologue, psychocriminologue, mais on n'est pas profiler en France. La fonction n'existe pas, ça n'existe pas.
Alors, il faut dire que ceux dont vous parlez, en général, ont été d'ailleurs formés par le FBI.
À Quantico,
qui est un peu la mecque du FBI.
C'est l'académie, les sciences du comportement du FBI. Donc ouais. Là, c'est quelque chose de tout à fait sérieux. Et puis, d'ailleurs, le terme de profiler n'est venu qu'en faisant du profilage, finalement.
Voilà. Ouais. Et certains de ceux et de celles dont vous parlez sont profs à Quantico. C'est-à-dire que c'est eux qui enseignent, ils sont instructeurs auprès des enquêteurs pour leur dire, attention, il y a des spécialistes de crimes sexuels, il y a des spécialistes de l'enquête des relations entre la victime éventuelle, le lien entre la victime et l'auteur de l'assassinat, etc., etc. Alors là, on parlait de Robert Ressler, qui est un peu le grand-papa de tous ces gens-là. Et lui, il a fait une rencontre dans sa vie, vous en parlez dans votre livre, très importante, c'était la rencontre de Charles Manson. Charles Manson, tout le monde se souvient, août 1969, cette villa proche de Los Angeles, où vont mourir notamment Sharon Tate, qui était enceinte, et on retrouve des inscriptions au sang, sur le mur, pigs sur la porte de la maison, etc. Donc, assez rapidement, la police va arriver à Charles Manson et à sa fameuse famille de hippies meurtriers. Et là, le document RTL qu'on va entendre date du 20 juin 1970, c'est-à-dire que le procès n'a pas encore commencé. Manson sera condamné à perpétuité l'année suivante, après 9 mois de procès. Mais là, on va entendre donc tout de suite le journaliste Philippe Alphen, qui, le 20 juin 1970, analysait sur RTL la personnalité de Charles Manson et parlait de l'importance qu'avait eue son enfance sur le reste de sa vie.
Charles Manson est un gosse misérable. Il est né d'une mère prostituée, alcoolique de surcroît, qui ne s'est jamais intéressée à lui. Il a eu une enfance affreuse. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 7-8 ans, il a été élevé par des vagues oncles, des vagues tantes. Ensuite, pour s'en débarrasser, on l'a mis dans un orphelinat. Il a été dans cet orphelinat jusqu'à l'âge de 14 ans. À 14 ans, il s'est échappé de cet orphelinat, il a vécu seul, et il a mal vécu parce qu'il a commencé une série de vols, et c'est à la suite de ça qu'il a commencé cette longue série de maisons de redressement, maisons de correction, jusqu'au moment où on le retrouvera en prison. Au départ, je pense qu'il a voulu être aimé. C'est un garçon qui a eu énormément besoin d'affection. Sa mère ne lui en avait jamais donné. Il a beaucoup souffert en prison. Ça, il l'a dit, il l'a répété maintes fois. C'est aussi un proxénète. Il aime les filles. Il aime la puissance que l'on peut avoir sur les filles. Il a joué le jeu du hippie, alors qu'il n'y croit pas du tout. Ce n'est pas un hippie. Le jeu de non-violence, etc., la tendresse, l'amour, il le fait parce qu'il veut amener les gens à lui. Mais le hippisme, c'était pas du tout fait pour lui. Il s'est servi du hippisme pour arriver à avoir de l'influence sur les gens qui étaient, eux, de véritables hippies. Il est devenu très aigri. Les choses n'allaient pas comme il voulait. Il s'est mis à détester la société. Il est devenu, à mon avis, assez délirant. Car ses chansons de cette époque sont très délirantes. Elles sont incompréhensibles, surtout si on ne se drogue pas.
Bon, alors, il faut dire, Véronique Chalmé, que Charles Manson n'a pas été arrêté à la suite du travail d'un profileur, hein, bien clair. Non, non, non. Mais Robert Ressler a tenu à le rencontrer.
Oui, parce que à l'époque, Ressler avait initié un programme, tout à fait informel. D'ailleurs, il n'avait pas l'aval de sa hiérarchie quand il l'a commencé. Il a eu l'idée, en fait, d'aller voir en prison les serial killers pour les interviewer, pour leur poser des questions, pour discuter avec eux le plus longtemps possible, pour, en fait, acquérir un matériel qu'il n'avait pas en sa possession et que personne n'avait.
C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui pourrait bien relier la vie de tel serial killer avec la vie de tel autre ? Est-ce qu'il y a des constantes, finalement, qui permettraient d'accélérer l'identification ou l'arrestation de ces gens-là ?
Oui, c'est le mystère des serial killers, c'est aussi le fait qu'ils tuent sans mobile la plupart du temps, sans mobile apparent ou compréhensible. Donc lui voulait aller au-delà et décrypter un peu leur attitude.
Ouais, et il a raconté, Ressler lui-même, sa rencontre avec Manson, il a été
mais il était impressionné,
très impressionné,
et puis il a été il a éprouvé du, parce qu'ils éprouvent des choses forcément, les profilers face aux tueurs en série. Ça peut être une espèce de fascination, mais ça peut être aussi du dégoût, de la répulsion. Ça a été le cas pour Manson, qui était un petit bonhomme, mais dont émanait une malignité vraiment intense, et qui a essayé de manipuler dès le début Ressler, parce qu'il essayait de prendre un petit peu les rênes de la conversation. Heureusement, Ressler était aussi un fort personnage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les profilers ont toujours aussi des sortes de points communs, finalement, avec les serial killers, dans la mesure où ils sont aussi rusés qu'eux, en quelque sorte, dans un autre style, évidemment.
Oui, mais parce que ce qu'ils apprennent de la ruse de tel ou tel tueur va pouvoir leur servir pour se mettre dans la tête de celui qu'on n'a pas identifié. Alors, c'est Ressler, je crois, qui avait commencé à faire à noter qu'il y avait des points communs d'un serial killer à l'autre, notamment je dis ça dans le désordre, cruauté envers les animaux, problèmes souvent d'enfants battus, de familles explosées, etc. Pyromanie.
Oui.
Aussi.
Pyromanie, vol, voilà, répétition, effectivement, maltraitance. Bon, sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes.
Pas suffisantes, voilà, parce qu'il reste toujours le mystère.
Ouais. Hein.
Et ce dernier mystère, tous ceux dont vous parlez continuent à le traquer, sans pouvoir assurer qu'ils l'ont vraiment élucidé. Ouais. Alors, le mystère, souvent, c'est dans la personnalité, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment pas la tête de l'emploi. Et il y a un autre, assassin en série, tueur en série, qui peut illustrer ce qu'on vient de dire, qui s'appelle Jeffrey Dahmer. Oui. Il a été important aussi dans l'univers de Robert Ressler dont on parle. Jeffrey Dahmer, un jeune homme bien. Ses voisins le trouvent
Bonne
apparence. Et il est arrêté par la police le 22 juillet 1991. Et dans son appartement, les policiers vont découvrir l'horreur. C'est ce que racontait ce 22 juillet 1991 sur l'antenne d'RTL François Sergent.
La police a retrouvé les restes de 11 personnes, tous des hommes de race noire, dans l'appartement infecté par les mouches de Jeffrey Dahmer. Selon le chef de la police de Milwaukee, c'était une horreur absolue. Il y avait 3 têtes dans le frigo, des restes humains sur le plancher, dans les placards et même dans les casseroles sur la cuisinière. Jeffrey Dahmer, un jeune homme âgé de 30 ans, a durant 1 an attiré de jeunes noirs dans son 2 pièces, les a tués, puis découpés. Il filmait et photographiait les corps mutilés, mais la police refuse de confirmer qu'il se soit livré à des actes de cannibalisme. Dahmer, un employé d'une petite chocolaterie de Milwaukee, avait déjà été condamné pour atteinte à la pudeur sur un mineur. Ses voisins du quartier pauvre, largement noir et hispanique où il vivait, le décrivent comme un homme secret, mais sans histoire. Tout juste, était-il gêné par les bruits de scie et l'odeur qui émanait de son appartement. Et comme le disait une voisine, jamais je n'aurais pu deviner ce qu'il faisait.
Voilà, il faut dire que Jeffrey Dahmer a été condamné à la prison à perpétuité en février 1992. Il avait été reconnu parfaitement sain d'esprit par les experts qui l'avaient étudié. Il est mort 2 ans et demi plus tard, 2 ans et demi en tout cas après sa condamnation. Il a été assassiné en prison par un de ses co-détenus. Mais entre-temps, Ressler l'a très très longuement rencontré et s'est intéressé de très près à sa vie. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, c'était vraiment c'est devenu d'ailleurs une théorie dans le profiling, c'est le jeune homme d'à côté. typiquement. C'est celui qui peut être le bon voisin, le garçon à qui même on confie ses enfants pour un babysitting. C'est arrivé d'ailleurs avec un autre tueur en série dont on parlera peut-être plus tard qui s'appelle Ed Gein.
Ouais.
Mais bon, Jeffrey Dahmer, c'était vraiment le gentil garçon. D'ailleurs, ses parents sont tombés de très haut quand on leur a appris que leur fils était ce monstre.
Et Ressler a tenu à rencontrer la famille de Dahmer.
Oui, justement. Et il a entretenu une relation très longue avec eux, y compris après le décès de Dahmer. Il a tenu à passer des heures dans leur appartement et même dans la chambre d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes de Dahmer, à observer
vous voulez vraiment se mettre dans ça pour voir le décor,
s'asseoir sur son lit,
voir à travers ses yeux quoi, en fait.
Voilà. Et imaginer ses fantasmes aussi.
Ouais.
Parce que ça c'est la clé.
Alors ça c'est la clé. On va en parler dans un petit instant parce que c'est aussi en se mettant dans ces états particuliers de conscience que un certain nombre de profileurs vivent des difficultés énormes dans leur intimité, dans leur vie personnelle, et parfois leur vie explose parce que ils sont avalés par le sujet de leur étude.
Ils sont happés par les abysses justement.
Alors on va en parler dans un petit instant et on va s'intéresser à un autre personnage terrible, John Wayne Gacy.
Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Dans notre galerie de portraits, il y a une femme. Dans votre livre, il y en a deux. Dont une profileuse, on va l'appeler comme ça, sud-africaine, dont l'histoire est passionnante à découvrir. Mais nous, on va parler d'Hélène Morrison.
Oui.
Parce que c'est un personnage tout à fait extraordinaire, au sens propre du terme. Et vous en parlez dans votre livre à travers les relations qu'elle a eu avec deux tueurs en série aussi peu recommandables l'un que l'autre, John Wayne Gacy, on va en dire un mot, et puis un certain Masek.
Oui.
Et ces deux hommes ont d'une certaine manière envahi la vie de cette profileuse.
Bah oui, au début elle était médecin, et puis finalement un peu par hasard elle a été amenée à faire l'expertise de Richard Masek, qui avait été arrêté en 75, qui était un tueur de femmes et de fillettes, donc il les avait assassinés évidemment de manière assez horrible. Et finalement, elle a commencé par une séance d'hypnose avec lui, qui s'est très mal déroulé parce qu'il a commencé il est devenu violent pendant la séance d'hypnose, ce qui est très rare. Donc là elle a senti qu'elle avait touché quelque chose d'inattendu
et de fondamental,
et là elle s'est aperçue que les tueurs en série ne réagissaient pas du tout comme les autres criminels. Donc elle a voulu approfondir le sujet, et finalement elle va passer plusieurs années à ses côtés, aller le visiter en prison, à le voir régulièrement, et on peut dire que même il comble sa vie d'une manière très intime, puisqu'à cette époque-là, c'est une jeune femme, elle n'a pas de mari, enfin, il devient presque l'homme de sa vie en quelque sorte.
Oui. Et alors, ça c'est Masek.
Oui.
John Wayne Gacy, en deux mots, rappelez qui il est.
John Wayne Gacy, il était surnommé le clown tueur. Bon, il a assassiné un grand nombre de jeunes hommes qu'on a retrouvés en état de décomposition sous sa maison. Enfin bon, là, il allait chasser les prostituées hommes le soir en voiture. Il se faisait passer pour un policier.
Oui.
Et le jour, il allait visiter les enfants des hôpitaux.
En se déguisant en clown.
Voilà.
Ouais, voilà.
Donc un personnage très ambivalent.
Et alors, Hélène Morrison s'est beaucoup, beaucoup intéressée à cet homme. Mais alors, il faut dire pourquoi. Elle avait une certitude, qui est certainement totalement anti-scientifique, hein, mais c'était sa certitude.
Et qu'elle a toujours, d'ailleurs.
Et qu'elle a toujours. Elle est très âgée maintenant, elle a plus de 75 ans.
Plus de 70 ans.
Ouais. Elle doit avoir 72 ans, d'ailleurs, je pense.
Voilà.
Et cette femme est persuadée, un peu comme au 19e siècle, les femmes théorie de l'ombroso, on parlait pas encore du chromosome du crime, mais du fait que les criminels, on devait pouvoir détecter les criminels à travers un certain nombre de repères faciaux. Vraiment, là, c'est le délit de faciès. Elle était persuadée que si la science s'intéressait au cerveau des grands tueurs en série, on allait trouver des éléments qui allaient permettre peut-être de faire de la prévention et de guérir le crime comme on guérit du diabète.
Voilà, elle croit en fait qu'un gène existe chez les tueurs en série. Que c'est pas ce gène qui les transforme en tueurs, mais qu'à un moment donné, au moment de la fin d'adolescence, il mute en fait ce gène, il se transforme, et que là, bon, ça donne un comportement spécial. Ouais. Donc elle rêve d'étudier le cerveau des tueurs en série. Elle rencontre John Wayne Gacy donc en 80, et puis elle va entretenir une relation de 14 ans avec lui.
Ouais, jusqu'à son exécution.
Ouais.
Et tout de suite après l'exécution, il y a une autopsie et elle est là.
Elle est là parce qu'elle avait anticipé la chose. Elle a fait signer les papiers à la famille. Elle en a parlé à Gacy lui-même. Et en fait, elle va récupérer son cerveau, simplement.
En kit, hein, en morceaux, comme ça. On va lui donner un bocal avec du formol.
Voilà.
Et les cellules grises de l'assassin qu'elle va emmener chez elle et mettre, je crois, dans une caisse en carton.
Voilà.
Mais elle la ressort de temps en temps.
Oui, puis bon, elle attend que la science puisse lui expliquer tout ça. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que quand elle a rencontré Gacy, elle rentrait d'un voyage de noces, donc tout est lié vraiment à sa vie privée, quoi. Et puis il lui a offert certaines de ses peintures parce qu'il peignait aussi Gacy, donc elle a des peintures de Gacy chez elle.
Voilà, donc elle a sa place dans cette galerie de portraits. Vous voyez que les portraits de profileurs sont souvent aussi étonnants que les portraits des criminels. Dans un petit instant, on va parler d'un autre profileur qui se trouve dans le livre de Véronique Chalmet, qui s'appelle John Douglas. Et là aussi, c'est un parcours tout à fait atypique et très intéressant.
Et l'heure du crime sur RTL.
Et c'est la dernière partie de l'heure du crime avec Véronique Chalmet. On a entamé cette galerie de portraits qui, évidemment, que vous pouvez retrouver beaucoup plus complètement dans son livre qui paraît aujourd'hui chez Hors Collection, dans la tête des tueurs, portraits de profileurs. Je vous le dis carrément, c'est un livre absolument passionnant parce que ça nous fait entrer dans l'intimité des profileurs. On les voit fonctionner, on voit le lien qu'ils ont et qu'ils doivent avoir s'ils veulent avoir du succès dans leurs recherches avec des criminels et des gens qui ont fait des choses horribles et qui les horrifient eux-mêmes. Ils sont parfois envahis, comme vous l'expliquez très bien dans le livre, par tout ce mal, quoi, dans lequel ils baignent tout le temps, à tel point, quelquefois, de consacrer leurs jours et leurs nuits à leurs enquêtes, et même, enfin, une scène, là, qui me revient en vous parlant, du monsieur dont on va parler, là, John Douglas, qui, un jour, sa femme se coupe en épluchant, des oignons dans la cuisine. Il va pas l'aider, il va commencer par regarder, quelle est la figure que dessinent les gouttes de sang sur le carrelage, en se disant, ça va peut-être me servir un jour,
Pour les scènes de crime.
Donc et il le constate lui-même et il en est évidemment malade. Alors John Douglas, lui, videur de bar au début, il fait une carrière militaire, mais il a toujours voulu être enquêteur, il a du mal à être accepté, puis il va finir enquêteur au FBI, il va rencontrer le meilleur, hein, Robert Ressler,
il va travailler avec son
élève, voilà. Et c'est lui en fait dont vous dites, on va parler de ses succès parce que il a fait des portraits de criminels, grâce à ces portraits on les a arrêtés, qui sont à tomber par terre, et notamment un jour, vous allez nous raconter l'histoire très rapidement, il est donc dans une équipe qui mène l'enquête sur un tueur en série, il dit, ce type est bègue.
Oui.
Les policiers lui disent, attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Ben oui, en fait, c'était l'histoire du tueur des sentiers qui opérait à Santa Cruz, donc près de San Francisco. Et donc, on savait pas qui c'était. Il attaquait des femmes qui faisaient leur jogging, tout simplement, et qui étaient assez costauds en plus physiquement. Il les attaquait par derrière, on comprenait pas comment il faisait, comment il les surprenait, etc. Oui. Et puis, alors donc, il s'appelait David Carpenter, ce tueur. Et John Douglas a dit donc aux policiers, leur a fait un briefing en leur disant, il est très probablement bègue et j'en suis quasiment certain.
Voilà. Mais ça, c'était l'aboutissement de son raisonnement. C'est-à-dire, il avait commencé par dire ce type est certainement quelqu'un qui est introverti, qui a honte de quelque chose, parce que la preuve, il attaque les femmes dans le dos.
Oui, mais il n'est pas handicapé physiquement.
Mais il n'est pas handicapé. Donc, s'il n'est pas handicapé physiquement, c'est qu'il doit avoir quelque part un handicap autre, quelque chose dont il a honte. Et effectivement, quand on a arrêté le tueur, il était bègue.
Il était effectivement bègue.
Sauf quand il tuait.
Oui, voilà.
quand même quelque chose d'absolument extraordinaire.
Et d'ailleurs, John Douglas, en fait, a été le modèle pour le personnage de Jason Gideon dans Esprit criminel, où on a repris en 2005 cet épisode du bégaiement. Enfin, il y a un clin d'œil dans la série.
Oui, il faut dire que c'est quand même très fort, mais vous décrivez la façon dont il travaille. Il passe des heures à étudier les rapports d'autopsie, des heures à étudier les photos des scènes de crime, des heures à lire les témoignages, le jour, la nuit, il faut qu'il les connaisse par cœur, et il dit lui-même, il faut que ça aille jusqu'à la nausée. C'est à ce moment-là, je sais que j'ai les éléments qui vont me permettre peut-être de trouver la solution.
Et il s'oblige même à rêver de ces dossiers, à rêver des victimes, à rêver des criminels pour se mettre dans leur tête. Ouais. Mais ça va finir par lui jouer un tour, parce qu'il a manqué mourir quand même à cause de ça.
Ouais. C'est-à-dire qu'il a eu un AVC, hein, c'est ça.
Voilà, en fait, des médecins a dit son cerveau a grillé, quoi, parce que il était sur une enquête, sur l'enquête du tueur de la Green River, et voilà quoi.
Et alors c'est lui qui en fait a été de ceux qui disaient que le fantasme sexuel, même en cas de crime sexuel, n'est pas forcément et souvent secondaire. Oui. Et c'est quoi le premier fantasme? C'est la.
En fait, tous les tueurs en série ont des fantasmes qu'ils essaient de réaliser, mais ils n'y parviennent jamais. Ouais. Donc c'est une espèce de quête inassouvie et perpétuelle et de plus en plus forte, exponentielle.
Et Douglas dit c'est la chasse.
C'est de la chasse.
La chasse à la
victime. C'est l'attrait de la chasse.
C'est l'attrait de la chasse qui voilà. Donc ce sont des. Il faudrait pas aller. C'est pas des images d'Épinal, hein, dans ce livre. C'est vraiment. On a accès finalement à la personnalité profonde d'un certain nombre de gens qui payent très très cher leur combat, hein, qui occupe et qui envahit leur vie. On peut pas aller plus loin, c'est dommage, mais on pourra en parler pendant des heures. En tout cas, je vous recommande la lecture de ce livre, Dans la tête des tueurs, portrait de profileur. Véronique Chalmé, son auteur, était mon invité. Le livre est paru aujourd'hui aux éditions Hors Collection. Merci.
Merci, Jacques.